Laudetur Jesus Christus.
La France est une nouvelle fois sous le choc après l'attentat dans une église à Nice. C'est maintenant l'heure des décisions politiques. Les autorités françaises veulent montrer leur fermeté. Nouveau conseil de défense dans la matinée. Dans notre dossier en fin de journal, nous prendrons le temps de réfléchir après ces événements avec le père Yves-Marie Lequin. Il est aumônier dominicain à Nice et nous invite à dépasser nos peurs à quelques jours avant la commémoration des défunts et il nous rappelle le sens chrétien de la mort. Dans le reste de l'actualité, on vote demain en Côte d'Ivoire. La campagne est polarisée et beaucoup d'Ivoiriens craignent de nouvelles violences autour du scrutin. Week-end de vote également en Géorgie où l'opposition se mobilise. Et puis enfin, direction la Colombie. Un chef historique de la guérilla a été tué lors d'une opération militaire.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. La lutte contre le terrorisme en France, au cœur d'un nouveau conseil de défense ce matin, présidé par Emmanuel Macron, au lendemain de l'attentat islamiste de Nice qui a fait 3 morts à la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Les autorités françaises veulent montrer leur fermeté alors qu'on en sait plus sur l'assaillant, Olivier Bonnel.
Oui, Marine. Brahim Aouissaoui, 21 ans, de passeport tunisien. Ce migrant clandestin était arrivé en Europe le 20 septembre dernier via l'île italienne de Lampedusa et selon le procureur antiterroriste, il avait pu quitter librement l'Italie 3 semaines plus tard. Brahim Aouissaoui, qui n'était pas connu des services de renseignement selon les enquêteurs. La question d'une meilleure coopération européenne en matière de renseignement sera donc sûrement abordée ce matin lors de ce conseil de défense pour tenter de pallier à ces failles. Comment renforcer la protection des citoyens français face au terrorisme sera bien sûr la grande question au cœur de cette réunion. Hier déjà, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le passage du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Et le président Macron, depuis Nice, avait confié que l'opération Sentinelle, qui mobilise l'armée, passerait de 3 000 à 7 000 soldats sur tout le territoire pour renforcer la protection des lieux sensibles, en premier lieu les lieux de culte. Il s'agit donc d'adapter le dispositif sécuritaire au niveau de la menace terroriste actuelle. L'enquête sur l'attentat d'hier se poursuit en parallèle. On a appris, Marine, il y a quelques minutes, qu'un homme avait été interpellé. Il est soupçonné d'avoir été en contact avec le terroriste.
Merci, Olivier Bonnel. De par le monde, les réactions se multiplient. Les 27 pays européens, dans une déclaration commune, font part de leur solidarité avec la France et appellent au dialogue entre les communautés et les religions. Les candidats à la présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, ont également dénoncé l'attaque contre un pays allié des États-Unis. Et plusieurs pays musulmans, dont la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran, ont fermement condamné cette attaque. La Tunisie, de son côté, a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple français. Et puis à noter également la réaction du pape François quelques heures après l'attentat. C'est un moment de douleur dans un temps de confusion. Le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés, a déclaré François. Et dans un télégramme envoyé à Monseigneur André Marceau, l'évêque de Nice, le pape François condamne de la plus énergique manière de tels actes violents et assure de sa proximité la communauté catholique de France et tout le peuple français qu'il appelle à l'unité. Nous reviendrons en fin de journal dans notre dossier sur ce drame avec le témoignage du père dominicain Yves-Marie Lequin. Il est aumônier à Nice. Les audiences du pape François vont de nouveau se dérouler dans la bibliothèque du Palais apostolique et sans public. Annonce hier du Saint-Siège, dans un contexte de forte résurgence de la pandémie et après la découverte d'un cas positif au coronavirus parmi les fidèles la semaine dernière. Retour donc au format pendant le confinement. Évidemment, ces audiences seront à suivre en direct sur notre site internet. En Pologne, les églises visées par les manifestants pro-avortement. Après une décision du tribunal constitutionnel réduisant le droit à l'IVG, de nombreux édifices religieux ont été tagués. Des messes dominicales ont été perturbées par l'irruption d'activistes. Ils étaient plusieurs dizaines des milliers des partisans de l'opposition rassemblés hier à Tbilissi en Géorgie avant les législatives de demain. L'opposition espère chasser le parti gouvernemental du pouvoir. En effet, atteinte démocratique et difficultés économiques mettent en péril le parti Rêve géorgien. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Le rêve géorgien, nom du parti au pouvoir, fait face à une situation inédite. Il affrontera demain une union constituée des principaux partis d'opposition. L'ex-président Mikhaïl Saakachvili et sa formation, le Mouvement National Uni, sont en effet parvenus à rassembler plusieurs formations pour attaquer celle de Bidzina Ivanishvili. L'homme le plus riche de Géorgie et ancien Premier ministre est accusé de réprimer l'opposition et de corruption. Depuis son exil ukrainien, Mikhaïl Saakachvili s'est adressé par visioconférence à des dizaines de milliers de ses partisans, réunis hier soir sur la place centrale de Tbilissi. Il leur a promis la victoire de la liberté sur l'oppression et de la prospérité sur la pauvreté. En cas de victoire du Mouvement National Uni, gratifié d'une légère avance dans les sondages, c'est à lui que reviendrait le poste de Premier ministre. Mais rien n'est fait, les importantes ressources financières à disposition du rêve géorgien peuvent lui permettre de faire la différence dans les derniers jours de la campagne. Pour rappel, critiqué pour ses penchants autoritaires, Mikhaïl Saakachvili avait quitté le pouvoir en 2013, avant de partir en Ukraine pour conseiller la présidence après les événements de Maïdan, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large du Sénégal. Les faits remontent à la semaine dernière. C'est la pire catastrophe de ce type en 2020. Le bateau, une pirogue en bois, transportait 200 personnes et visait l'archipel espagnol des Canaries au large du Maroc. La Côte d'Ivoire à la veille de l'élection présidentielle. Les deux principaux acteurs de la crise post-électorale de 2010-2011 se sont exprimés dans les médias ces derniers jours. Le président Alassane Ouattara qui se présente à un troisième mandat controversé, mais également son prédécesseur Laurent Gbagbo. Il est sorti d'un silence médiatique de 9 ans. Chacun se renvoie la responsabilité de la crise autour du scrutin qui se profile. La correspondance à Abidjan d'Amandine Réo.
Ce qui nous attend, c'est la catastrophe, prévient Laurent Gbagbo dans une interview à TV5 Monde, première intervention télévisuelle depuis 9 ans. L'ancien président rejette par avance l'issue du scrutin de demain. Il s'est exprimé depuis Bruxelles, où il est en attente d'un éventuel procès en appel par la Cour pénale internationale. Selon Gbagbo, il n'est pas trop tard pour rétablir le dialogue entre gouvernement et opposition, même si les deux candidats Henri Conan-Bédier et Pascal Affine-Guessant ont appelé au boycott du scrutin. Ils contestent la candidature de Ouattara a un troisième mandat, mais aussi la composition de la commission électorale indépendante, selon eux, inféodée au pouvoir. Le président s'est lui aussi exprimé sur la situation politique. Les manifestations et les tensions identitaires qui en ont découlé ont fait une trentaine de morts. Nous avons des éléments précis qui incriminent l'opposition, a assuré Alassane Ouattara. S'agissant de Laurent Gbagbo, le chef de l'État a assuré qu'il allait faciliter son retour en Côte d'Ivoire après l'élection, sans pour autant l'amnistier. Amandine Réau, Abidjan, Radio Vatican.
Les forces démocratiques armées, ce groupe formé par des rebelles musulmans ougandais, a de nouveau sévi à Beni, dans l'est de la RDC. Au moins 19 personnes ont été tuées la nuit dernière dans le village de Baïti. L'armée de libération nationale de Colombie, l'ENN, la dernière guérilla active dans le pays, a confirmé hier le décès d'un de ses principaux chefs, le commandant Uriel. Uriel était l'une des figures les plus médiatiques de l'ENN. Sa mort est considérée comme le plus grand coup porté à l'organisation depuis le début du mandat d'Ivan Duque, élu en 2018. À Bogota, les explications d'Anne Proenza.
C'est avec douleur révolutionnaire que nous confirmons la perte du camarade Uriel, a admis jeudi dans un communiqué l'Armée de Libération Nationale. Le LN, né en 1964 et inspiré au départ par la Révolution cubaine, est la dernière grande guérilla colombienne depuis l'accord de paix qui a permis la démobilisation des FARC en novembre 2016. Le gouvernement d'Ivan Duque avait annoncé dès dimanche dernier comme une victoire l'opération militaire dirigée contre le camp d'Andrés Vaniegas, alias Uriel, dans la région du Chocó au sud-ouest du pays. Âgé de 45 ans, celui-ci était un des chefs les plus médiatiques de cette guérilla. Le gouvernement lui attribuait notamment l'organisation de l'attentat contre une école de police à Bogota qui avait fait 22 morts le 17 janvier 2019. C'est suite à cet attentat que le président Duque avait d'ailleurs rompu les négociations de paix entamées par le gouvernement précédent. Et depuis, il ne cesse de réclamer l'extradition de Pablo Beltrán, le chef de l'ELN, qui se trouve à La Havane où avait commencé ses pourparlers de paix. La mort d'Uriel semble bien montrer que la relance des négociations n'est pas à l'ordre du jour. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
Les Australiens doivent être prêts à faire face à des incendies plus fréquents et plus graves, et cela en raison du changement climatique. C'est ce qui ressort du rapport de la commission d'enquête du pays publié hier. Les incendies reviennent chaque année en Australie au sortir de l'hiver austral, mais l'an passé, ils ont été d'une gravité exceptionnelle, faisant 33 morts et détruisant l'équivalent d'une surface grande comme le Royaume-Uni. La France et les catholiques sont encore sonnés par l'attentat de Nice à la basilique Notre-Dame de l'Assomption qui a fait 3 morts hier matin. Le président Emmanuel Macron, accompagné de ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, mais aussi du président de la Conférence des évêques de France, Mgr de Moulin-Beaufort, s'est rendu hier en début d'après-midi à Nice, assurant que la France se tenait aux côtés des catholiques dans cette épreuve. À quelques kilomètres de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, vit le père dominicain Yves-Marie Lequin. Il est aumônier du milieu artistique pour le diocèse de Nice. Passé les premières heures d'émotion légitime après ce nouvel accès de violence meurtrière, le père Lequin nous livre ce matin une réflexion sur la nécessité, selon lui, des mesures à prendre pour désarmer cette violence terroriste et pour donner un sens à cette souffrance. On l'écoute.
Prendre tout ce qui sera nécessaire, je dirais, pour protéger nos chrétiens, pour protéger tous ceux qui veulent continuer à célébrer le culte, quel qu'il soit, d'ailleurs, je dirais, dans les meilleures conditions, et qu'on puisse leur garantir, je dirais, une certaine sécurité. Et puis, je crois, continuer de faire cet effort et de travailler à aussi défaire toutes ces formes complètement dingues, quoi, de ces idéologies qui contiennent beaucoup d'erreurs, mais encore faut-il à chaque fois retravailler pour les mettre en avant. De toute façon, je crois que le problème de la violence lorsqu'elle se déchaîne, c'est qu'il y a une sorte d'engrenage contre lesquels on ne sait plus trop quoi faire en fait. Mais je vois qu'il y en a qui désirent par exemple, oui, on va ouvrir les églises, on va quand même tout faire comme si de rien n'était. Je ne suis pas prêt à lancer tous les fidèles dans l'aventure du martyr. D'abord, martyr, c'est d'abord être témoin. Je pense que nous avons le devoir de continuer d'être témoin de notre foi au milieu de la violence. Ça, c'est un devoir, c'est le sens profond du martyr. Après, la forme que ça prend, je dirais à chacun selon sa vocation de voir ce qu'il a à faire. Mais il peut y avoir, par exemple, un martyr, c'est-à-dire un témoignage dans la réflexion, dans les rencontres interreligieuses. Voilà.
On le voit, le discours sur la fraternité à laquelle appelle notamment le pape François est parfois difficile à entendre, surtout dans ce contexte d'attentat. Est-ce que vous entendez la voix de ceux catholiques ou chrétiens d'ailleurs en particulier qui ont du mal aussi à entendre ce discours?
C'est de toute façon un discours difficile à entendre. La fraternité, de toute façon, ne va pas de soi. Que l'on soit dans un climat de violence, le climat difficile que nous connaissons, ou même en temps de paix, de toute façon, la fraternité ne va pas de soi. Je dirais, c'est un effet de la grâce, mais qui nous demande un énorme travail. L'état, la situation de violence dans laquelle nous sommes, parce qu'il faut bien le dire maintenant, c'est une violence qui s'est installée progressivement au cœur, en fait, de beaucoup de personnes. Et c'est un climat aussi qui est là. Je dirais que c'est un défi de plus pour la fraternité, c'est un défi de taille pour la fraternité, mais la fraternité, de toute façon, est toujours un travail. Et je crois que nous avons vécu des temps où nous étions dans notre Occident dans une certaine paix, on va dire, relative. Nous découvrons maintenant que la guerre est chez nous, qu'on faisait comme si on n'entendait pas certains appels, certaines voix, certains problèmes. Maintenant, les choses apparaissent peut-être de façon plus saillante. Et donc, voilà, c'est un défi pour la fraternité qui, de toute façon, n'est jamais facile à vivre.
Comment sortir par le haut, si j'ose dire, de cette spirale infernale?
Moi, je dis toujours le premier réflexe chrétien, parce que c'est celui du fond du don du Christ, ce que nous avons reçu, qui est le don de l'agapé, de cette charité qui ne veut connaître aucune limite, et bien de cet amour, voilà, cet amour universel, profond, réel, ce don que nous avons reçu, et bien c'est déjà de le mettre en route par la prière. Je crois que le premier mouvement, d'ailleurs c'est celui du pape tout de suite, dans les pensées qu'il a pour Nice, pour cet attentat, dire voilà cette prière, la conférence des évêques de France, qui a voilà pris pour le pays, pour ce pays qui est la France, qui propose une prière aux fidèles. Déjà faire un mouvement de prière, parce que quand on ne sait pas quoi faire, la charité, l'élan de la charité, l'élan de l'amour, il passe par la prière. Et ensuite, dans ce mouvement de la prière, ensemble, voir tout ce que nous pouvons faire pour reconstruire quelque chose, reconstruire comme le pape y invite, quoi, reconstruire, retravailler, je dirais, cette fraternité, mais je dirais jour après jour, avec des petites choses. Après tout, aux yeux de Dieu, il n'y a ni petites ni grandes choses. Quand il s'agit d'amour, il n'y a forcément que de grandes choses. Mais Il faut savoir recommencer des petits pas.
Un témoignage bien évidemment à retrouver sur notre site internet. Interrogé par Olivier Bonnel, le père Yves-Marie Lequin, dominicain à Nice, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 13h. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée.